Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Les soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs, chers amis, sur les rives du Jourdain, nous venons de l'entendre, accourent des foules de plus en plus nombreuses, attirées par une rumeur. Non pas une de ces fake news, comme on le dit en bon français à notre époque, mais une promesse dont la réalisation semble imminente. Il arrive, il se fait proche, il est en chemin. « Mais de qui parlez-vous donc ?» demande cette foule à Jean, le Baptiste, et à ses disciples. Et Jean leur répond « Il vient, celui qui est plus fort que moi. » Ce dialogue improvisé au bord du fleuve nous fait penser aujourd'hui à la démarche des nombreux catéchumènes qui frappent chaque semaine à la porte de nos communautés. Qui sont-ils ? Que cherche-t-il ? Qu'espère-t-il ? Le plus simple est de leur demander, puisqu'ils sont parmi nous. Alors je ne veux pas parler à leur place, mais je dirais qu'ils désirent connaître Jésus. Et je dirais aussi que leur soif réveille la nôtre. Ils bousculent nos habitudes en interrogeant notre propre foi. Quel accueil leur réservons-nous ? Quelle communauté vont-ils trouver ? Sommes-nous témoins de la foi qui a déjà commencé à grandir en eux ? Au moment où les foules se pressent devant Jean, une question est posée à plusieurs reprises. Que devons-nous faire ? Cette même question est souvent posée par les catéchumènes. Que devons-nous faire ? Nous pressentons alors la profondeur d'une telle question que nous ne pouvons pas éluder. A priori, le langage du devoir ne coïncide pas complètement avec le chemin de la foi qui suppose le choix et la liberté. Mais nous comprenons bien le désir de savoir et de connaître, la volonté d'adopter les bons usages, l'aspiration à mener une vie cohérente. C'est ainsi que Jean donne comme premier repère l'appel au partage. Celui qui a deux vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. La foi et la charité se trouvent unies de manière indissociable. Et la question revient, posée cette fois par des collecteurs d'impôts, puis par des soldats. Et nous, que devons-nous faire? Les premiers sont alors appelés à l'intégrité, et les seconds à la paix, à la probité et à la sobriété. De ces quelques échanges, nous pouvons d'emblée retenir que Jean n'apporte pas des réponses techniques. Il porte son attention et celle de ses interlocuteurs sur la manière de vivre. Plus tard, les uns et les autres trouveront en Jésus le modèle par excellence à suivre et à imiter, celui qui donne sens à cette existence nouvelle qui s'ouvre devant eux. À leur tour, les catéchumènes désirent se préparer à rencontrer celui qui les a appelés, et il nous revient de les accueillir et de les accompagner. Lorsque les foules rejoignent Jean qui se propose de les baptiser, elles se situent à la croisée des chemins. En effet, elles sont arrivées jusque-là après avoir déjà entrepris une certaine démarche intérieure. Des paroles leur ont été dites, des signes leur ont été donnés. Et voilà qu'elles se présentent, plus ou moins capables d'expliquer le désir qui les anime. Ce qui apparaît d'emblée, c'est qu'elles veulent avancer et se tourner résolument vers l'avenir. Elles ne regardent pas leur histoire avec angoisse ou nostalgie. Elles ne restent pas accrochées à des certitudes ou à des usages reçus en héritage. Et c'est bien le propre de la foi que d'espérer ce qui arrive. Non pas d'hypothétiques lendemains qui chantent et qui font déchanter sitôt la chanson terminée, mais plutôt un avenir plein d'espérance, comme l'annonçait déjà en son temps le prophète Jérémie. Ce matin, nous avons entendu un autre prophète qui vécut quelques décennies plus tôt. Il s'appelait Sophonie. Lui aussi stimule son peuple pour qu'il regarde droit devant et ne se laisse pas défaire par les difficultés du moment, ni les oiseaux de mauvais augure. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi, tu n'as plus à craindre le malheur. Certes, des malheurs surviendront encore, des épreuves jalonneront l'histoire collective et individuelle, le doute ne se dissipera pas aisément, mais Dieu se révèle proche et consolateur. Il aura en toi sa joie et son allégresse, et il te renouvellera par son amour, ajoute le prophète. Le Seigneur trouve en nous sa joie, car il nous accorde sa confiance, il espère en nous, il a foi en nous. Quelques siècles après Sophonie, l'apôtre Paul adresse aux jeunes chrétiens qui habitent la ville de Philippe cet appel exigeant. « Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. » Un tel propos ne peut manquer de faire réagir. Comment donc ne serions-nous inquiets de rien devant la violence qui se déchaîne partout dans le monde, devant la souffrance subie par le cœur ou par le corps, devant les divisions ou les menaces de toute nature. Face à tant de dangers qui éprouvent notre patience et notre espérance, Paul recommande une attitude, celle de la confiance en Dieu. Priez et suppliez. Une nouvelle question est alors posée par les apôtres à Jésus lui-même et par les catéchumènes aux chrétiens qu'il rencontre. Que devons-nous faire pour prier? Nous connaissons la réponse de Jésus. Il ne donne pas des conseils pratiques, mais il offre des mots pour nous aider à entrer en dialogue avec Dieu. Ce sont les mots du Notre Père que nous redisons souvent, parfois ensemble et de manière solennelle à l'Église, comme nous le referons tout à l'heure, parfois à quelques-uns au cours d'une rencontre pastorale ou d'une veillée, parfois seuls dans le secret de notre chambre. Et nous ne cessons jamais d'apprécier et de découvrir la richesse et la profondeur de ces phrases qui nous aident à entrer et à demeurer en prière. Notre joie est grande de reconnaître en Dieu notre Père, celui qui nous guide et qui nous protège, celui qui nous tient par la main et qui reste fidèle, éternellement fidèle. Amen.